L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors c'est la magie de la technique. Benoît Cinetti, bonjour. Vous êtes à Lille, nous sommes à Paris. Nous vous voyons
bonjour
à l'écran.
Christophe.
Vous nous entendez?
Ben oui. Oui, très bien.
Bon, Jean-François Roth, vous êtes là.
Oui, je suis là.
Et nous allons parler de Lazare, le ravi que vous publiez aujourd'hui même aux éditions du Cerf. Alors, Benoît Cinetti, vous devenez évangéliste à réécrire le texte sacré sous le regard de Lazare. Ce pourrait être un nouvel apocryphe, l'évangile de Lazare. Pourquoi avoir écrit ce livre avec ce prisme?
Écoutez... Ça fait pas mal de temps que j'ai en tête l'idée de raconter. J'aime bien raconter les récits bibliques depuis longtemps. Je l'ai fait quand j'étais curé de paroisse à Paris. Je le fais à Lille maintenant aux enfants du catéchisme. J'aime bien accompagner des groupes en Terre Sainte. J'aime bien cet art du récit, voilà, de raconter une histoire que la Bible nous enseigne.
C'est notre tradition de raconter.
Notre tradition, ouais. Et c'est vrai que Lazare, c'est un personnage qui m'a toujours touché, parce que d'abord, tout le monde en parle, alors qu'en fait, on ne sait rien de lui, ou très peu. On en parle une fois dans l'Évangile, hein, c'est oui. Chapitre 1 de Jean, parce qu'il est le frère de Marthe et Marie.
Vous rassemblez en fait bien des figures de l'Évangile en une seule personne, Lazare. Vous nous refaites l'histoire, et pourquoi pas, parce que c'est très cohérent. Donc Lazare... C'est un fils de riche, je vous lis. À ces pêcheurs de Galilée, il renvoyait l'image d'une éducation trop soignée, trop délicate, arrogante. Et un peu plus loin, entre sa sœur et le tombeau dont il était sorti, pour tout dire, Lazare gênait. Donc c'est un point d'interrogation, Lazare, finalement.
Bah oui, parce qu'on imagine bien quand même que dans la première communauté chrétienne, ce bonhomme, il pose question. D'abord parce qu'il peut se prévaloir de deux choses tout à fait particulières. La première, c'est qu'il est réputé pour être l'ami de Jésus. C'est quand même le seul homme devant lequel Jésus pleure. Voilà,
parce qu'il est mort. Ce que vous n'indiquez pas.
Non, parce que je me place toujours du côté de Lazare.
Ouais.
Et par définition, Lazare ne voit pas Jésus pleurer, puisque...
Ben non.
Qui est dans le tombeau à ce moment-là.
Alors, vous en faites l'enfant prodigue, Lazare.
Alors, oui, c'est-à-dire que je pense que les paraboles de Jésus, elles sont toujours tirées, comme souvent d'ailleurs, quand dans la conversation, quand on discute les uns avec les autres, quand on raconte une histoire qu'on essaie de rendre un peu exemplaire ou pour faire réfléchir, on prend toujours des éléments de récits réels, de choses qu'on a vécues. Et c'est ce vécu-là qui nourrit notre capacité à raconter. Et je pense que dans les paraboles de Jésus, les mises en scène qu'il présente, les récits qu'il fait, sont forcément inspirés d'éléments réels de son expérience humaine.
Jean-François Rod.
Oui, je voulais dire aux auditeurs que précisément, il me semble qu'un des grands mérites de votre livre, c'est que vous donnez beaucoup de chair au personnage évangélique. Et effectivement, c'est très heureux, je trouve, d'aller chercher dans le fils prodigue un peu l'état d'esprit d'un jeune bien élevé, mais qui a envie de vivre sa vie et qui donc quitte la maison de manière un peu...
Insensée.
Un peu fracassante,
oui.
Un peu insensée, et qui vit à la fois l'exaltation de la dilapidation et aussi un peu, bien sûr, assez vite, le manque et la
tristesse.
Et de manière générale, vous donnez beaucoup de chair aux personnages de la Bible. C'est vraiment intéressant.
Alors... On a Lazare, qui est donc le frère de Marthe et Marie. La Marie de Magdala, qui n'a rien d'une pute. On est d'accord.
Mais dans l'Évangile non plus. En fait, on ne sait pas très bien. Qu'est-ce que c'est qui est Marie de Magdala? D'abord, est-ce que c'est bien la Marie, sœur de Lazare? Est-ce que c'est une autre Marie? On parle souvent de plusieurs Maries. Ce livre, je le précise, n'a aucune vocation à faire une référence exégétique ou scientifique en aucune manière. C'est un récit.
Oui, oui.
Un récit, laisse la place à l'imagination, j'espère un peu à la prière, et en tout cas à toutes sortes de possibles. Voilà. Je n'ai aucune démarche universitaire, d'abord je n'en ai pas la prétention, j'en serais bien incapable, sur le personnage de Lazare.
On va y venir. J'ai beaucoup aimé, avant la résurrection du Christ, nous parlons du sabbat, et ils vont fêter le sabbat, etc. Et puis juste, une fois qu'il est ressuscité, on a ce dimanche-là, fut le premier jour de son retour dans le monde des vivants, et que le passage de la résurrection fait passer du sabbat au dimanche. J'ai trouvé ça très joli.
Oui. Oui. Si vous voulez, moi, je trouve que les récits de l'Évangile, on a parfois tendance à les voir soit comme des textes tellement sacrés qu'on n'ose pas y toucher, soit comme des textes qui nous parlent de quelque chose de très lointain et de très étranger à notre histoire. Or, je trouve que l'Évangile, les Écritures en général, l'Évangile en particulier, ont une saveur quand même très forte, et ils sont imprégnés de notre histoire. Ça peut paraître très paradoxal puisqu'ils ont été écrits à un moment historique donné, mais ce qui est ça qui est le plus sidérant dans l'Évangile, c'est que quand on y réfléchit, quand on les lit, quand on les médite, quand on essaie de les savourer un peu, on voit qu'ils sont imprégnés de manière très paradoxale par notre histoire. Voilà. Et c'est ça que j'ai essayé de rendre compte.
Alors, autre figure que vous mettez dans le récit, et encore une fois de façon très cohérente, quand il rentre, l'enfant prodigue, il rentre, le père est mort. Il n'y a plus que ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et alors, il va voir son parrain, on va dire, en tout cas le frère de son père, Nicomède. Nicomède était de quelques années plus jeune que son père.
Nicodème.
Je pense toujours à Corneille. Nicodème était de quelques années plus jeune que son père, mais la ressemblance était bouleversante. Et il va y avoir ce dialogue formidable avec son parrain. Et là, vous avez une page sur la prêtrise. Je vous lis. Il était bien placé pour juger que le prêtre est à la fois le maillon indispensable et le plus faible, le plus fragile de tous, au cœur de toutes les tentations de séduction et de domination. Il a le pouvoir de rendre présent l'Éternel à sa créature, à condition qu'il ne se prenne pas lui-même pour Dieu. Il en avait vu chuter autour de lui, emporté par l'ivresse de la toute-puissance, rendu fou d'orgueil et d'arrogance devant une réalité qui ne se pliait pas à leur vision ou à leur ambition. D'autres serviteurs du temple se condamnaient, camouflant leurs vices et jouant les perles à morale, puisant largement dans les caisses, s'épuisant dans des bras impies, tout en faisant la leçon au peuple. Vous êtes vachement anticlérical, non ?
Ben, écoutez, je ne sais pas, vous avez lu les Évangiles comme moi. Oui. Est-ce que c'est un texte qui n'est pas très, très anticlérical ? En tout cas, très anticléricaliste, pour dire les choses.
Celui qu'on lit le mercredi des cendres, effectivement.
Par exemple, moi, vous savez, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans l'Évangile, ceux qui s'en prennent plein la tronche, ce sont les prêtres. Il y a d'autres catégories, mais les prêtres, notamment les prêtres du Temple. Il serait tout à fait étonnant que les paroles de Jésus aux prêtres du Temple ne soient réservées strictement qu'aux prêtres du Temple. Et je pense que tout prêtre a le devoir de se mettre à l'écoute de ces paroles et de voir en quoi elles peuvent rejoindre ses propres difficultés.
Et puis alors, il y a la foi, il y a la rencontre avec Jésus. Rencontre assez compliquée pour le pauvre Lazare au début, parce qu'il cherche un peu à le voir, il ne le voit que de loin, il est derrière les apôtres et les disciples. On a l'impression qu'il se hausse sur les pieds, et il y a cette partie terrible du doute. Je vous cite encore. « Puis ce fut comme une aspiration. Tout son être, corps et âme esselée s'étendait sur la couche. Il pensait, mais n'existait plus. » Abandon et solitude plus immense que dans le tombeau de pierre ou sur les cailloux des chemins sur lesquels il s'était envautré. Il aurait aimé pleurer, crier, maudire ou sentir une présence, mais rien. Un vide absolu l'avait avalé. Il ne se disait même plus pourquoi. C'est comme s'il s'asphyxiait à mesure que les heures passaient. Une boule au fond de lui bloquait tout, empêchait tout, même la mort, songea-t-il, ne peut libérer de cette angoisse. Il contemplait sa disparition sans comprendre, sinon que peut-être il n'y avait plus de sens à rien. Plus aucune raison que le lève, sa vie était absorbée dans le néant, au-delà des couleurs et des douleurs, au-delà du mal et du bien, sa vie et son corps étaient dissous. Plus il s'enfonçait, plus il se disait qu'il serait bon de pleurer ou de pouvoir hurler, mais rien, aucun son, aucune eau.
Wir. bereit für die Gräber, für mich, für mich. Es sei, ha, feiger Simon, lebst vor Gräbern und sehnst dich weg aus dieser Jammerwelt. Suchst Bahnen nach Ruhm und fliehst vor ihr zurück. Wo könnte ich allgewaltiger im Staube nur einmal ich untergehen? So froh wie sonst, als ich noch süßen Traum vom ewigen Leben träumte. Vor dir bieten, vor dir bieten. Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Wo könnte ich allgewaltiger im Staube nur einmal ich
le grand malheur, vous avez reconnu le Lazarus de Franz Schubert pour illustrer ce Lazare, le ravi de Benoît de Cinetti, publié aujourd'hui aux éditions du Cerf. Alors, tout ce tricotage, je vous passe la parole tout de suite, mais tout ce tricotage de récits de l'Évangile concentré sur Lazare et qui nous permet de regarder, de relire l'Évangile à travers Lazare, on se demande où Benoît de Cinetti veut-il nous emmener ? Et il le sait, lui, dès le départ, en écrivant, je le cite, le rite n'est rien sans la foi, et la foi ne peut tolérer de se laisser endiguer par le rite seul. Elle le déborde en exigeant toujours qu'il soit repris, pensé, bousculé, et même transformé. Et nous assistons, en effet, à la Pâque, célébrée par le Christ. Il y a Marie, il y a Marie-Madeleine, il y a Lazare, ils sont tous là autour des apôtres, autour du Christ. Il y a Judas, et là vous avez une scène terrible quand Judas sort et quitte la salle. Lazare voit tout, il comprend rien.
Mais personne ne comprend rien. En fait, moi je pense, si vous voulez, que c'est le principe d'ailleurs de la Bible, c'est qu'on ne comprend la Bible qu'en l'interprétant et en la réinterprétant. Sur le moment, on ne comprend rien. C'est quand Jésus dit « je suis venu accomplir », ceux qui l'entendent dire ça et comprennent ce qu'il a voulu dire, des années plus tard, sur le moment, ils ne comprennent absolument rien à ce qu'il veut dire. Pour qu'une action soit accomplie, il faut qu'elle soit terminée. Tant qu'elle n'est pas terminée, elle n'est pas accomplie. Donc, vous voyez, on est dans une difficulté permanente. Et donc, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, les évangiles le notent à différentes reprises, à la Transfiguration, par exemple. En fait, ils comprennent rien jusqu'à ce que, après la résurrection, etc., etc., leurs yeux s'ouvrent. Mais c'est évident que le soir de la scène, les hommes et les femmes qui étaient là et qui ont vu l'incident avec Judas, il n'y a aucune raison qu'ils remarquent, d'ailleurs, Saint Jean le laisse entendre tout à fait, et les évangélistes aussi. Personne, sur le moment, ne prend conscience, sinon il l'aurait arrêté. S'ils avaient conscience de ce qu'il allait faire, il y aura forcément un Pierre, un Jacques ou un tel qui lui aurait dit « Mon petit gars, tu restes ici ».
Vous écrivez « À chaque nouveau visage, il devinait combien les existences sont des récits tourmentés et combien les plus lisses cachent des blessures profondes. Il apprenait à aimer ». C'est le confesseur que vous êtes qui écrit ça ?
Oui, et puis l'homme que je suis aussi, tout simplement. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous dans nos vies, plus on vieillit, plus on mûrit, plus on se rend compte que le visage qu'on donne de nous-mêmes ou que les autres donnent d'eux-mêmes est souvent un pâle reflet de la réalité, qui est souvent beaucoup plus belle, en tout cas toujours beaucoup plus riche.
Et extrêmement simple. Il y a un clin d'œil, il y a l'Eucharistie que j'ai trouvé formidable. De jour comme de nuit, il partageait avec lui le poisson grillé et pêché. Il bénissait le pain et la coupe avant de sentir couler en ses veines et grandir en sa chair la présence de celui qui commandait de boire et manger.
Ben, c'est
formidable. C'est tellement simple que c'est lumineux, Benoît de Cinetti.
Parce que pour moi, la communion, c'est recevoir en partage la présence du Seigneur. Voilà. Et c'est cette présence qui est importante. Elle est réelle, on dit c'est la présence réelle. On s'attache beaucoup au mot réel pour en faire parfois quelque chose à la limite de l'idolâtrie ou de la magie. Mais non, c'est la présence, c'est la réelle présence de Jésus qui vient habiter dans nos vies. Et cette présence, elle vient dans la chair. Ce que j'ai voulu dans ce petit récit, c'est manifester que la foi chrétienne, c'est la foi de la chair. Voilà. C'est du corps, c'est de l'humain, c'est de la sueur et du sang, comme dirait l'autre. C'est pas juste des grands esprits qui échangent sur des concepts théologiques.
Et d'ailleurs, vous soulignez cette erreur, je vous cite encore, « bâtir une pensée pour l'homme, pour son exaltation, sa liberté, fuir les extrêmes, l'ascétisme comme la jouissance des sens, pour avancer dans la modération, une pensée qui ouvre la voie de l'harmonie universelle. » Ça, c'est l'erreur.
C'est l'erreur.
Voilà. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans toute la presse.
On voit bien que, de manière générale, notre société, elle est traversée par un grand courant. Je ne suis pas du tout dans la théorie du complot, en imaginant qu'il y a un gars qui tient les manettes de ça ou quoi que ce soit. Mais il y a disons un grand courant qui trouve que, en général, les religions sont plutôt un problème. Voilà. Parce que les religions, elles mènent de la guerre, elles mènent de la division, etc., etc. On entend tous ça tout le temps. Et pour une part, d'ailleurs, c'est pas forcément faux. Voilà. Mais donc, puisque les religions sont un problème à l'unité humaine, eh bien, créons une espèce de grand courant un peu spiritualiste, un peu humaniste, où on prend le meilleur des différentes religions. En gros, faut s'aimer, faut pas faire la guerre, et faut être gentil, voilà, et partager. On fait ça, puis on est content, voilà. Mais sauf que les religions, en fait, leur mission, leur raison d'être, c'est d'être des vecteurs qui aident l'homme à découvrir le visage de Dieu. Et c'est tout à fait différent. La religion, elle est là pour permettre à l'homme d'exprimer sa soif d'intériorité et pour pouvoir rencontrer celui qu'il cherche. Voilà. C'est pas juste d'établir entre les hommes une harmonie universelle.
C'est entendu. Jean-François Rode.
Il y aurait beaucoup à dire sur le livre, mais je trouve que les portraits que vous faites de Marthe et de Marie, on n'en a pas beaucoup parlé, sont vraiment très intéressants. Et il y a une surprise, effectivement, quand on lit le texte de Saint Jean, c'est qu'on s'aperçoit donc que Jésus venait dans cette maison, il aimait Marthe, Marie et Lazare, et Lazare n'est pas marié, ni Marthe ni Marie. C'est une famille particulière. Et vous marquez très bien comment Marthe, l'évangile le dit, et Marie n'ont pas du tout le même rapport, enfin, la même manière d'exprimer la foi en Jésus. Marthe, c'est Marthe qui dit à son frère, en fait, que c'est lui, que Jésus est le Messie.
Oui.
J'ai trouvé vraiment ces deux personnages bien décrits et stimulant beaucoup notre propre méditation.
Oui, ce sont...
Oui, pardon.
Benoît Cinetti.
Oui, non, je me disais que... Une des réflexions que j'avais en écrivant ce livre, c'est de me dire que Marthe et Marie étant célibataires, probablement, en tout cas, elles vivent ensemble, donc quand même, ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de familles, ni pour l'une ni pour l'autre. Pourquoi elles sont célibataires? Elles n'ont pas fait un vœu religieux. Puis dans le judaïsme, ça n'existe pas, cette notion-là. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie.
Elles ont été très laides.
Comment?
Elles étaient peut-être très laides.
Il y a beaucoup de femmes et d'hommes laides qui se marient. Pour rassurer tout le monde. Mais il y a une raison à ça. Et cette raison, je ne la connais pas. Et moi, je me suis imaginé que c'était lié à un scandale familial, au fait que leur frère, Lazare, ait jeté l'opprobre sur leur famille, etc., etc. Et par contre, elles ont en elles un désir d'aimer incroyable. Et Marthe et Marie, c'est d'abord des amoureuses. Et il est évident que quelqu'un comme Jésus, qui paraît devant des femmes et même des hommes qui cherchent à aimer, un homme comme Jésus ne peut qu'attirer des amours un peu fou. Mais c'est la logique même, si vous voulez. Sa manière d'être attentif à tout le monde, de ne juger personne, d'accueillir, de donner une parole qui touche au cœur, etc., voire même de guérir parfois. Mais comment voulez-vous que quelque cœur qu'il soit puisse résister à cela ? Donc, c'est évident que Marthe et Marie, elles étaient comme beaucoup d'autres femmes, j'en suis absolument persuadé, et tout cela, évidemment, ne remet rien en cause de quoi que ce soit d'enseignement de l'Église, je précise, était amoureuse de Jésus. Enfin, Rilke le dit,
bien
l'amour
sûr,
de ma
bien
tête,
sûr.
C'est quand même pas n'importe quoi, si vous voulez.
Bien sûr, et comment ne pas l'être ?
Et comment ne pas l'être ?
Eh bien, évidemment. Bien Jean-François Roth, qu'est-ce qu'il faut aller voler, regarder ou acheter à la table des libraires ?
Surtout pas voler, mais il y a plein de bons procure. Livres qui paraissent, effectivement. J'en cite un en particulier qui s'appelle « Politique et écologie » de Marcel Raymond et Hélène Noisette, « Le cri du pape François ». Je le cite celui-là, c'est aussi Jean Jésuite, parce que c'est un commentaire de Laudato Si. Et, disons-le franchement, les textes officiels du pape, etc., on s'y réfère beaucoup, on les cite, on en parle, mais enfin bon, je ne suis pas si sûr que ça qu'on se précipite pour les lire, et quand on les lit, on n'est pas toujours tout de suite comment dire, dans le coup. Hein. Donc c'est pour ça qu'un commentaire bien fait par les jésuites du Ceras me paraît vraiment important à signaler. Donc une lecture de
l'écologie... Politique et écologie.
Ça s'appelle Politique et écologie, et c'est donc aux éditions jésuites. Et puis... Plus classique, mais très intéressant aussi, je signale la Genèse de Philippe Abadie au CERF dans la collection Mon essai de la Bible. Je cite quelquefois cette collection parce qu'elle est extrêmement utile. La Genèse, c'est un livre évidemment essentiel qu'on lit beaucoup, mais qui est très complexe. Hein. Il y a à la fois toute la partie de la création, toute la partie de... et après, on passe à Abraham. On a à la fois l'universalité de la création et après le début de l'histoire du peuple juif. Et c'est un texte qu'on voit bien qui a été reconstruit, compliqué. Eh bien, Philippe Abadie est un très bon maître pour comprendre ce texte qu'on lit souvent. Ça aide beaucoup à comprendre vraiment de quoi il s'agit. Je recommande cette pédagogie de la Genèse, Philippe Abadie, mon ABC de la Bible.
Bon, ben, il n'y a pas beaucoup de livres à acheter cette semaine.
Ah, ben, quand
même.
Donc,
il faut acheter le Lazare, le Ravi, de Benoît Cinetti, publié au CERF. Pourquoi le Ravi, Benoît Cinetti ?
Alors, ce n'est pas le Ravi de la crèche.
Ben voilà, justement.
Il a été ravi à la mort, voilà. C'est un
d'accord.
Jeu de mots un peu sur les deux. Et comme il est mort, en tout cas, une des légendes qui tourne autour de lui et qui serait mort à Marseille, même si c'est sans doute pas vrai, peu importe, ben Marseille, c'est la Provence, et la Provence, c'est aussi le Ravi de la crèche.
Voilà. Absolument. Donc là, ça fait la boucle est bouclée. Vous avez des passages qui sont édités en italique, une sorte de grand monologue de Lazare dans le tombeau. Et là, oui. J'ai trouvé que ça, ce sont des moments extrêmement rédigés, presque poétiques. Oui, poétique, on peut le dire, où on a la solitude, mais le bien-être.
Oui, ben oui, pourquoi est-ce que ce serait mauvais ? Pourquoi est-ce qu'on se sentirait forcément mal en étant dans un tombeau ? C'est pas mal, ça peut être pas mal d'être quelques instants en tout cas, d'être au calme, qu'on vous fiche la paix, d'être allongé comme ça. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est amusant parce que ce texte, notamment le texte qui ouvre le livre, les deux premières phrases, je les avais en tête depuis des mois et des mois, mais vraiment quasiment mot pour mot, et je ne savais pas quoi en faire. Pour moi, c'était Lazare dans son tombeau, voilà ce qui pouvait se dire.
Donc je vous lis, c'est bien ouais. La nuit, être couché là, au frais, seul, loin, nul ne viendrait vous chercher.
Voilà. Et pour moi, c'était les phrases que j'attribuais, que je mettais dans la bouche, dans le cœur de Lazare, sur la banquette de pierre sur laquelle son corps avait été déposé dans le tombeau. Et quand j'ai parlé de ça avec, enfin, il y a quelques mois de cela, en discutant avec Philippe Verdun, donc le dominicain, qui discutait d'un projet de livre éventuellement, je lui ai dit, écoute, moi, il y a peut-être un truc qui m'intéresserait, parce que je ne sais pas très bien comment ça pourrait tourner, mais voilà, j'ai dans le cœur quelque chose sur Lazare qui commencerait par ces phrases-là. Et il m'a dit, ben, écoute, vas-y. Voilà. Et donc, j'ai commencé par écrire ces phrases, et puis ensuite par travailler le reste du récit. Mais c'est vrai que je tenais beaucoup. Alors, ce n'est pas très, très évident littérairement, parce que c'est beaucoup d'aller-retour, mais d'où l'utilisation de l'italique pour manifester un peu les temps dans le tombeau et hors du tombeau. Je tenais beaucoup à ce qu'il y ait ce dialogue entre le Lazare dans le tombeau et la vie à l'extérieur.
C'est très réussi. Merci Benoît Cinetti. Je rappelle Lazare le Ravi aux éditions du Cerf. Merci Jean-François Rod. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch, François Dieudonné et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous quotidien. Demain, eh bien, nous irons au théâtre pour Le Point de Rupture, pièce d'Agatha Christie, magnifiquement jouée par les Sept de la Cité, une troupe d'amateurs éclairés qui aide des associations. Alors c'est important de vivre le théâtre pour que vivent les associations caritatives. Allez, je vous embrasse, à demain.